Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette émission, entretien avec Jean-Paul Barbe, germaniste, professeur à Nantes. Il est l'un des organisateurs de la quinzaine tchèque à Nantes à partir du 2 mars, dans le cadre du Centre culturel européen de cette ville de Loire-Atlantique. Pendant 15 jours, Nantes prend des couleurs tchèques. Conférences, expositions, rencontres littéraires et gastronomiques, c'est un programme très complet qui a été préparé et qui essaye de sortir des sentiers battus, des clichés rebattus sur les pays tchèques. Jean-Paul Barbe nous rappelle tout d'abord ce qu'est le Centre culturel européen.
Le Centre culturel européen, c'est une association de 1901 qui regroupe, qui fédère quatre centres culturels permanents, un qui concerne le domaine germanique, un autre pour la Grande-Bretagne, un pour l'Espagne et pour l'Italie. Et donc quatre centres permanents, quatre cultures qui sont représentées de manière permanente. Et alors, chaque année, en plus, on invite pour une quinzaine une des cultures d'Europe qui ne sont pas présentes de manière permanente à Nantes. Et c'est la sixième édition cette année. On a commencé il y a donc 5 ans par la Lettonie, ensuite la Belgique, la Roumanie, les pays scandinaves, la Suisse, et maintenant c'est le tour de la République tchèque. Il s'agit à chaque fois de sensibiliser les Nantais à la diversité de l'Europe, parce que notre hypothèse de départ, c'est que on ne peut pas s'intéresser au tout, c'est-à-dire à l'Europe, comme tout, si on n'a pas quelques connaissances des parties et de leur diversité.
Alors, juste une petite précision, c'est vrai que Nantes, c'est très loin de Prague, c'est très loin de la oui. République tchèque, c'est pas les mêmes contrées, mais est-ce qu'il y a peut-être quand même des liens historiques entre Nantes et la République tchèque? Je sais que par exemple, pas très loin de chez vous, à Rennes, Rennes est par
oui,
exemple jumelée avec Brno,
oui.
Voilà.
Oui, hélas, non. Dans la région, il n'y a pratiquement pas de jumelage, il y en a un petit près du Mans, sauf qu'il y a au niveau des établissements scolaires, un des témoignages qu'on aborde dans la quinzaine, c'est les échanges qui ont lieu depuis un certain nombre d'années entre un lycée de Nantes et puis le lycée de Diečín.
Concrètement, est-ce qu'on pourrait juste dire, pendant cette quinzaine, quel type d'événements vous organisez? C'est
oui.
Conférences, expositions, cinéma?
Oui, c'est ça. Alors, le cinéma est présent, mais pas véritablement au centre, parce que le cinéma classique tchèque est assez souvent représenté hein, dans les cinémas d'art et d'essai, à Nantes aussi. Nous avons donc des concerts, nous avons une exposition d'art contemporain, nous avons également une exposition photo de Holomíček.
Bohdan Holomíček, oui.
Oui, et puis un certain nombre de conférences, des ateliers aussi, il y a des ateliers de cuisine, mais il y a un atelier d'initiation linguistique. On accorde toujours beaucoup de prix à ce que il y a une toute petite initiation. Par exemple, vous avez peut-être remarqué en voyant notre site que notre plaquette comporte des titres en bilingue toujours pour nos différentes manifestations. Donc il y a un atelier d'initiation linguistique.
Gratuit, il faut préciser.
Oui. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement à l'Université de Nantes. Hein. Ce n'est qu'à Rennes qu'il y a un enseignement du tchèque.
Alors c'est aussi original au niveau au niveau simplement de le côté loisir, j'allais dire. Certes, vous proposez par exemple de la bière tchèque, mais vous proposez également une tchajovna qui est peut-être moins connue. Et c'est vrai qu'il y a énormément de salons de thé tchajovna en République tchèque.
Oui, c'est ça. Ça semble être un genre d'établissement et de lieu social assez à la mode, qu'on connaît peut-être moins que les brasseries. Mais c'est le même lieu qui se transforme à partir de 18h en brasserie. Et à la brasserie, il y aura des poèmes qui seront dits, en particulier par des étudiants tchèques, en tchèque et en français, lors de ces soirées-là, qui se font de manière assez informelle.
Alors, vous parlez évidemment des conférences. Vous-même, vous êtes germaniste et donc vous animerez une conférence.
Oui.
Cette conférence est intitulée, alors si je me trompe pas, voilà, d'Archimboldo Aslin et des Celtes à Havel. Alors
oui.
Ce que je voulais préciser quand même pour les auditeurs, c'est que vous avez choisi des bornes très intéressantes pour ce thème, parce que vous prenez un peu le contre-pied de ce qu'on associe traditionnellement à la République tchèque, qui est souvent réduite en gros à Prague, à Kafka. Donc à la place de Kafka, vous choisissez un autre personnage important, Archimboldo.
Oui.
Et au lieu de Prague, vous choisissez Zlin. Et
oui.
Puis vous rappelez surtout les attaches celtes des Tchèques, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours très connu.
Si vous voulez, dans ce que j'appelle l'alphabet culturel tchèque, j'ai des points de repère comme ça, ou des icônes, si vous voulez, qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont présentées habituellement. Ou bien, l'angle d'approche n'est pas le même. Par exemple, Kafka, j'en parlerai un peu de Kafka, mais c'est vrai qu'il y a une surconsommation de t-shirts Kafka Forever, quoi. C'est pas ça notre propos. Mais je parlerai de Kafka à travers la petite ville, le château de Liblice, où il y a eu la conférence en 1963 sur Kafka, faut-il brûler Kafka, etc., qui a mené ensuite au printemps de Prague. Je réintroduis des gens, mais d'une autre manière. Archimboldo, oui, c'est parce que c'est à la fois un des moments de cosmopolitisme de Prague, mais de cosmopolitisme d'en haut, en quelque sorte, hein, un peu lié au palais surtout, et qui a été idéalisé, magnifié, d'une manière très très belle par un livre culte comme celui de l'italien Angelo Ripellino, Praga Magica.
À préciser d'ailleurs qu'il vient de ressortir en tchèque cette
ah
année.
Bon.
Voilà.
Ah,
une
bon,
réédition,
une
très belle
nouvelle,
réédition.
Oui.
Voilà.
Et Zlin, bah parce que pour moi, c'est le symbole de l'essor industriel novateur dans la période de la République tchécoslovaque, entre les deux guerres, quoi. Bon, qui a été arrêté un peu par la mort accidentelle de Bata, mais c'est en même temps un exemple presque unique d'une ville entière bâtie selon les termes ou les idées de Le Corbusier, ou, bon, c'est pas lui qui est venu, mais enfin, quelqu'un de cette école-là.
Et puis les Celtes, quand même.
Oui.
Justement, on oublie souvent que finalement les Celtes sont allés
oui.
Partout de l'Irlande
oui,
à la
ça.
Turquie en passant par la Bohême.
Oui. Alors, j'en parle, mais là, très brièvement, pour rappeler que y a eu des peuplements divers depuis très longtemps, même le néolithique. Là, je commence mes diapositives par une Vénus d'il y a je sais pas combien de dizaines de milliers d'années. Enfin, c'est une vieille terre de peuplement, en fait, de peuples qui se sont succédés, là. Et sinon, dans les icônes, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée de ce que je pense proposer, bon, les gens sont allés à Strahov, par exemple, au monastère de Strahov. Il y a deux salles, il y a une salle de théologie et une salle de philosophie. Elles illustrent très bien le passage de la contre-réforme au début des Lumières, c'est-à-dire la salle baroque de théologie, et un plafond immense avec des décorations incroyables, etc. La salle de philosophie à côté, qui est faite un siècle plus tard, elle a un plafond assez bas à hauteur d'homme, quoi, avec des livres qui peuvent être pris à la main comme ça. Vous voyez, c'est bon, il y a quelquefois des lieux qu'on peut regarder avec un autre regard, quoi. C'est un peu ça. Et puis des choses qui, du point de vue européen, je sais pas, un lieu comme la prison autrichienne de Spielberg, là, en Moravie.
À Brno.
D'une manière générale, d'ailleurs, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, on réduit les choses à Prague, et notre souci, ça a été de rappeler aux Nantais que la République tchèque, ça n'est pas que Prague, et qu'en plus, ça n'est pas que la Bohème, et qu'il y a la Moravie.
Tout à fait. Ce que les Tchèques ont tendance eux-mêmes à oublier parfois, quand ils sont
oui.
de Bohème.
Oui, et pourtant, il y a une grande, grande richesse. Dans le passé et dans le présent aussi, d'ailleurs. Dans le domaine des symboles, je fais un sort au monument de Staline, dans les Diskesadi, là, l'Etna, qui est quand même dans l'histoire de la statuaire, quoi. Il y a beaucoup de monuments, de statues gigantesques à Prague, genre Hus, etc. Quelque chose d'inégalé et qui manifeste bien les problèmes du communisme avec sa destruction, comment dirais-je, clandestine presque, en 1962, etc. Et puis le roman qui a été écrit en français par Elsa Triolet, qui s'appelle Le Monument, où sans jamais qu'on dise que c'est la République tchèque ou la Tchécoslovaquie, le sculpteur donne l'énorme somme qu'il reçoit, puisqu'il est promu malgré lui prix Staline pour la sculpture, à un institut pour aveugles. C'est-à-dire que c'est une gigantesque plaisanterie aussi, ça, la Kundera.
On peut parler un petit peu aussi de l'aspect un peu plus ludique de cette quinzaine, hein, puisqu'il y a des conférences, évidemment,
oui.
C'est côté universitaire ou plus sérieux, entre guillemets, mais il y a quand même un aspect plus ludique, et notamment puisque vous allez faire découvrir aux Nantais un personnage un peu particulier, Yara Zimmerman.
Yara Zimmerman. On a découvert, en fait, ce personnage avec des lys. Et c'est quand même un cas assez unique dans le monde que les citoyens d'un pays, dans l'enquête de la télévision, par exemple, décrètent que c'est Yara Zimmerman le plus grand tchèque de tous les temps, quoi.
Tout à fait. À côté de Charles IV et d'autres personnages éminents de l'histoire tchèque.
Oui. Donc, on a imaginé qu'il était venu, on a essayé de poursuivre un peu la fiction, quoi, qu'il était venu à Nantes en 1910. Bon, alors on a donné quelques pistes, des départs, si vous voulez, de réflexion aux Nantais pour dire, bah, écoutez, contribuez, cherchez dans vos archives familiales si il n'aurait pas été question de Yara Zimmerman en 1910. On leur a dit, par exemple, c'est une vraie fausse piste qu'il aurait peut-être rencontré Vladimir Ilyich Ulyanov, Lénine à Pornic. Il se trouvait en vacances en juillet 1910 à Pornic. Mais ça, c'est vrai, en réalité. Et donc, on a fait un concours avec, il y aura des prix. Alors, certains, il y aura un buste de Yara Zimmerman comme premier prix. Également, un séjour de 8 jours dans le petit village où il a été pour la première fois instituteur et qui est un village imaginaire. Voilà, donc.
Vous avez déjà eu des réponses?
Oui. Et on peut encore en envoyer jusqu'à, on espère en avoir d'autres encore, jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Et donc l'ambassadeur, Pavel Fischer, va dévoiler une plaque rue dans Cosmopolis, c'est-à-dire dans le lieu où nous faisons nos manifestations, une plaque de rue Yara Zimmerman. Et la brasserie s'appelle Uyari Zimmermana.
D'accord, donc Yara Zimmerman est vraiment mis en valeur dans le festival, ce qui est quand même relativement rare aussi à côté...
Oui, ben on est content de faire sortir un peu... Il est allé à Paris, on le sait, il avait rencontré Pierre et Marie Curie, par exemple, et puis on sait quand Gustave Eiffel lui avait volé l'idée de la Tour Eiffel, mais on n'en savait pas beaucoup plus.
C'était le germaniste Jean-Paul Barbe qui nous présentait cette semaine la quinzaine tchèque à Nantes qui commence le 2 mars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez évidemment retrouver cette rubrique sur notre site internet au www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt, à la semaine prochaine.